Journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin du nucléaire, façon grandes heures du programme français, Emmanuel Macron à Belfort, pour annoncer 6 nouveaux EPR et pourquoi pas 8 ou 14, de l'électricité décarbonée dont la France va avoir besoin puisque tout passe à l'électrique. Mais est-ce la bonne stratégie? On ouvre le débat dans un instant. Faire grève pour son salaire, cette saison les lustucrus réclament 150 euros, on va les entendre. Le thème du pouvoir d'achat central dans la campagne électorale. Des menaces russes en Ukraine, des mercenaires russes au Mali, que peut la diplomatie? On l'a vu à l'œuvre cette semaine et on posera la question à votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Il s'agit du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au micro d'Inter dans une vingtaine de minutes. Vous avez la parole, ami auditeur, appelez-nous 01 45 24 7000.
Il a renoncé, Salah Abdeslam l'a dit pour la première fois hier, il n'a pas voulu se faire exploser le soir du 13 novembre 2015, réaction des victimes des attentats dans ce journal. On verra aussi que la recherche en infectiologie n'est pas au niveau, c'est un rapport de la Cour des comptes. Et puis on plongera dans le métavers pour comprendre pourquoi les marques s'y intéressent tant et y mettent déjà autant d'argent.
France Inter.
Réduire la part du nucléaire et fermer 12 réacteurs en plus de ceux de Fessenheim. C'était l'idée il y a encore 2 ans, le plan du gouvernement à l'horizon 2035. Mais depuis, l'atome a pris sa revanche et la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron sera donc annoncée aujourd'hui à Belfort. Faire face à l'augmentation des besoins en électricité en misant sur les renouvelables, certes, mais surtout relancer le nucléaire français. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
On parle de 6 à 14 nouveaux EPR.
En tout cas, on a intérêt à en construire au moins 6. C'est le seuil identifié par la filière nucléaire pour que l'opération soit techniquement et économiquement rentable. EDF propose de les construire sur des sites existants, 2 à Penly en Normandie, 2 à Gravelines près de Dunkerque, les 2 derniers au Tricastin dans la Drôme ou à Bugey dans l'Ain. Ces nouveaux EPR sont des versions standardisées de celui de Flamanville, dont l'achèvement est prévu en fin d'année, avec plus de 10 ans de retard et une facture quasiment quadruplée. Le pari technologique est risqué. Qui reconnaît l'Elysée, mais les besoins d'électricité s'accélèrent. Aujourd'hui, toute la filière nucléaire attend un planning, un programme, explique Cécile Arbouille, déléguée générale du GIFEN, le groupement industriel des entreprises du nucléaire.
On va avoir besoin de personnes en plus, les tuyauteurs, les soudeurs, les chaudronniers, les électriciens industriels. Ces métiers ne s'improvisent pas, on a besoin de former les gens. Si on construit 4 réacteurs en même temps ou avec peu de décalage entre les 2 premiers et les 2 suivants, on aura besoin de 20 000 personnes. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin, nous, de cette vision moyen terme et d'un vrai programme.
Alors, des emplois, de la technologie, tout ça a un coût, Delphine, et on sait que les budgets sont toujours dépassés. Alors combien ?
À ce stade, l'Elysée se base sur les calculs d'EDF. 50 milliards d'euros pour 6 EPR, sans doute plus si l'on en croit les audits externes. Comment financer ce nouveau nucléaire? Trop tôt pour le dire, répond l'Elysée. Des discussions sont en cours avec Bruxelles. Une chose est sûre, l'État jouera son rôle pour financer ce nouveau programme nucléaire.
Alors ce plan, c'est celui du président. Merci Delphine Simon à confirmer s'il est réélu, parce que ses adversaires, eux, n'ont pas du tout la même vision des choses. France Insoumise et les Verts, Antoine Gignot, dénonce le fait du prince.
C'est le manque de concertation que mettent en avant les représentants de la France Insoumise. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.
Ce modèle énergétique est un point démocratique dont nous devons débattre. Nous devons le trancher dans une élection présidentielle. Ce n'est pas à lui de décider. Tout seul, il continue à s'engager dans une voie qui pour nous est une impasse. Plus on va continuer à mettre de l'argent dans le nucléaire, moins on va développer les énergies renouvelables.
Des énergies de moins en moins chères, lance chez les écologistes Sandra Régol. Le tarif du photovoltaïque a chuté de 85% ces 10 dernières années, explique la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, pendant que Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, s'attaque au coût du nucléaire.
La France a voulu construire un EPR à Flamanville. Il devait ouvrir en 2012 et coûter 3,3 milliards d'euros. Nous sommes en 2022, il est toujours pas prêt d'ouvrir et on est déjà à 20 milliards. Même un seul, on n'a pas été capable de le construire. Emmanuel Macron multiplie le tour de magie x 14, puisque c'est le nombre de PR qu'il annonce, et on se demande qu'est-ce qu'il fait d'autre.
Et les écologistes le rappellent, au dernier pointage pour l'année 2020, la France est le seul pays de l'Union européenne à n'avoir pas atteint ses objectifs de production d'énergie renouvelable.
Énergie dont il sera question aussi aujourd'hui, puisque construire des centrales, ça prend au moins 15 ans, donc il faudra développer le renouvelable d'ici là, selon l'Elysée. Emmanuel Macron pourrait miser sur les éoliennes en mer, moins contestées que les éoliennes terrestres. On verra ça à Belfort cet après-midi sur le site Génération. General Electric qui produit les turbines nucléaires en voie de rachat par EDF. C'est là-bas que le président fera ses annonces. Mais le principal thème de cette campagne électorale, c'est le pouvoir d'achat avec des grèves pour les salaires qui se multiplient. Chez Lustucru, par exemple, 3 sites sont à l'arrêt depuis lundi en région Rhône-Alpes. Tommy Cataneo, les salariés réclament 150 euros d'augmentation.
Et en attendant de les obtenir, Mehdi et ses collègues se retrouvent tous les jours devant les grilles du site de Lorette.
On n'a rien à perdre, nous, c'est eux qui ont à perdre, nous avec nos bas salaires.
1400 euros net par mois pour ce conducteur de ligne qui gère les machines qui produisent les gnocchi, raviolis et autres tagliatelles.
On charbonne, comme on dit, du matin au soir, là, l'usine elle tourne 7 jours sur 7. Et à la fin, on récolte rien, quoi. On est là, on est vraiment des pions. On se sent comme des pions.
Ça passe d'autant plus mal que Lustucru est un groupe mondial qui a, selon les syndicats, profité de ces 2 dernières années pour accroître ses bénéfices. Une bonne nouvelle, selon Karim, mais à condition que les salariés comme lui en profitent aussi.
Surtout qu'en fait, ils nous ont dit que les gnocchi fourrés, ils avaient fait un énorme succès. C'est vraiment jackpot pour l'entreprise, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas vu les profits.
La direction aurait proposé au syndicat une augmentation d'environ 50 euros brut par mois pour tous les employés. Bien trop peu, selon la CGT, FO et l'UNSA. Karim s'attend donc à tenir le piquet de grève encore plusieurs jours.
Ils ont dit que ça va être un bras de fer, et on verra le premier, mais je pense pas que de notre côté ça va lâcher.
Une de ses collègues confie qu'en 40 ans chez Lustucru, elle n'a jamais vu une telle mobilisation. Selon FO, la quasi-totalité des ouvriers du site lorettois ont cessé le travail, soit une centaine de personnes.
Tommy Cataneo, France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Aujourd'hui, on fait aussi grève dans le luxe, chez Vuitton, dans 5 des 18 usines de la marque, à l'appel de la CFDT et de la CGT, contre un nouvel accord sur le temps de travail qui va réduire les heures supplémentaires et pour une hausse des salaires, là aussi. Et puis, au rayon des bénéfices, décidément, les banques se portent bien après les résultats historiques de la BNP l'an dernier. La Société Générale annonce un bénéfice multiplié par 4 au dernier trimestre 2021.
Et là encore, on parle de sous, Florence, il est 8h07, mais pas seulement.
La Cour des comptes tense le manque d'organisation de la recherche en infectiologie au Pays de Pasteur. Le rapport publié hier soir se désole de nos failles mises en lumière par le Covid. Pas de vaccin et pas de traitement français, alors que les maladies infectieuses sont la grande menace des années à venir. C'est un plaidoyer pour la cohérence que lance la Cour des comptes, Véronique Julia.
Des budgets non pérennes qui sont distribués par à-coup quand survient une crise comme celle du Covid. Des acteurs éclatés entre tout un tas d'institutions, des crédits saupoudrés, des essais cliniques initiés sans cohérence d'ensemble. Avec ce résultat, 350 études lancées durant le Covid et avortées faute de cohorte suffisante. La Cour souligne ce paradoxe, une France en pointe en matière de recherche, mais un triste bilan pendant le Covid. Quand la crise a démarré, disent les sages, la France disposait de 4 microscopes seulement pour explorer le virus, quand l'Allemagne en possédait une trentaine. Les ministères de la Santé et de la Recherche ont eux-mêmes du mal à quantifier, dit la Cour, les crédits annuels alloués à l'infectiologie dans son ensemble, alors même qu'ils connaissent les montants consacrés au cancer. Alors oui, au bout d'un an de crise sanitaire, la France a commencé à comprendre qu'il fallait organiser la filière. Elle s'y emploie, mais que de temps perdu, à l'heure d'échanges internationaux qui se multiplient, du permafrost qui est en train de fondre, de l'antibiorésistance qui gagne du terrain, la menace infectieuse nécessite plus que jamais, dit la Cour, un meilleur pilotage avec une institution qui, comme on a su le faire efficacement contre le sida, centralisera les priorités de recherche et fléchera l'allocation des crédits.
Et côté pandémie, le nombre de patients Covid est en baisse à l'hôpital. Le gouvernement espère pouvoir lever le pass vaccinal fin mars, début avril. Cette fois, il a longuement parlé, Salah Abdeslam, principal accusé du procès des attaques du 13 novembre 2015, interrogé hier par la cour d'assises spéciale. Oui, il a bien épousé les thèses de Daesh qu'il continue à soutenir, mais non, il n'a tué ni blessé personne ce soir là à Paris. Il a renoncé à déclencher sa ceinture d'explosifs. C'est la première fois qu'il le dit, Charlotte Piret. Il s'est adressé aux victimes.
Salah Abdeslam le sait, le dit même, vous êtes venus nombreux pour m'écouter. De fait, beaucoup sont venus à l'audience entendre le principal accusé, ses revendications, beaucoup ses explications aussi, et ses premiers mots sur le fait qu'il a renoncé à déclencher sa ceinture explosive. Des mots importants mais pas essentiels pour Arthur Desnouveaux, survivant du Bataclan et président de l'association de victimes Life for Paris.
On savait déjà qu'il n'avait pas tiré et qu'il ne s'était pas fait exploser. Donc de toute façon, qu'il ait renoncé ou pas, sa complicité, le fait qu'il ait amené des kamikazes, le fait qu'il ait su exactement les plans jusqu'au dernier moment, ça, rien n'a changé aujourd'hui. Et donc je ne crois pas que ça change grand-chose pour les parties civiles.
Les parties civiles auxquelles Salah Abdeslam s'est aussi adressé, citant le témoignage à la barre de mamans endeuillées, de frères et sœurs survivants des terrasses ou de rescapés du Bataclan en colère. Des victimes que Salah Abdeslam s'est dit prêt à rencontrer, pas contre un aménagement de peine, mais si ça peut les aider. David Fritz a été otage au Bataclan.
C'est assez difficile à entendre dans le sens où, enfin moi, Salah Abdeslam, c'est quelqu'un qui m'a un peu énervé en début d'audience. à travers les propos, une sorte de banalisation de la violence, banalisation du terrorisme. Mais je pense que s'il y a un dialogue qui peut être amorcé, ça peut être intéressant de le faire.
Salah Abdeslam qui a enfin tenté de se montrer rassurant. Si je sors, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit.
Charlotte Piret qui suit dans son intégralité ce procès des attentats du 13 novembre. Tous ces comptes rendus sont à lire sur franceinter.fr. 6 rafales, contrat signé par l'Indonésie ce matin et commande passée pour 42 avions français au total. Là-bas, le matériel est plutôt américain, comme les soldats dépêchés pour renforcer l'OTAN. La Roumanie les attend, inquiète des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Et une partie de ces militaires viendra d'Allemagne. Ils sont sur le départ. Reportage sur la base de Vilseck en Bavière, signé Ludovic Piétenu.
Les véhicules, camions et blindés sont prêts au départ. Stationnés les uns derrière les autres, ils forment deux impressionnantes colonnes. Combien sont-ils ? Au moins 200, répond de façon assez vague un gradé américain en charge de la communication. Ce qui compte, c'est la démonstration de force.
Derrière moi et autour de nous, vous pouvez voir ces mots traduits en actes.
Le colonel Joseph Ewers est fier de ses hommes. C'est lui qui commande ici le 2e régiment de cavalerie de l'armée américaine.
Depuis leur poste avancé en Roumanie, nos soldats travailleront en étroite collaboration avec les forces de notre pays d'accueil. Ils mèneront ensemble des entraînements difficiles et réalistes. Nous serons à leur côté aussi longtemps qu'ils le souhaiteront.
Ce régiment a pour spécialité d'être une force légère et rapidement déployable.
Le but de cette mission est de renforcer l'OTAN et le flanc est de l'Alliance.
Ce régiment a pour emblème une fleur de lys. La devise est écrite en français. Toujours prêt, un héritage de leur engagement il y a un siècle lors de la Première Guerre mondiale, en France, sur la ligne de front, comme aujourd'hui, toujours prêt et sur le point de rejoindre les côtes roumaines de la mer Noire à 1800 km de leur base allemande. Vilseck, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et ce matin, la Russie annonce le début de 10 jours de manœuvres militaires en Biélorussie, signe que Vladimir Poutine n'a pas l'intention de faire baisser la pression tout de suite. Les policiers les utilisent, les pompiers aussi, les ont testés, les caméras piétons, expérimentées depuis l'été 2019 pour faire face aux violences et aux incivilités auxquelles ils font face. Le dispositif va maintenant être généralisé, Béatrice Duguay, parce que manifestement, il a fait ses preuves.
De la méfiance, c'est ce que ressentaient les pompiers au début. Ils craignaient notamment de briser la confiance avec les patients, raconte Jérôme François, vice-président de l'UNSA Pompiers.
On a des choses qui frôlent le secret médical des fois dans nos échanges. Est-ce que le fait d'avoir une caméra sur le ventre ne va pas empêcher les gens de se confier à nous ? Et la deuxième inquiétude qu'il y avait, c'est sur certains quartiers où on sait qu'il y a des cages d'escalier qui sont tenues parfois par des points de deal, des choses comme ça. On se posait des questions, est-ce que les gens vont nous laisser rentrer de la même façon, sachant que potentiellement ils étaient filmés ?
Caméra déclenchée en cas d'incident uniquement, petit boîtier noire d'à peine 10 cm, elle passe en fait inaperçue dans l'équipement, reconnaît Jean-Baptiste Demour de l'UNSA.
Comme une brassière, on vient le mettre sur soi, on la clipse à l'envers, on la retourne pour la bloquer et après un appui long sur le bouton central, on va pouvoir l'activer.
Outil de dissuasion, précise Jérôme François, moins dans les cités du reste que pour les personnes alcoolisées ou énervées.
Sur des interventions de gens qui parfois se comportent un petit peu comme des consommateurs, on n'a pas été assez vite et puis le travail c'est pas comme ça qu'il faut le faire et puis c'est pas sur tel hôpital qu'on va transporter, c'est sur tel hôpital. Sur ces situations-là, oui, ça a tendance quand même à calmer les choses et puis ça peut être également utilisé sur les agressions type violence urbaine.
Pour identifier un agresseur a posteriori, dans les départements où elles sont expérimentées, ces caméras sont régulièrement déclenchées, images réquisitionnées par les forces de l'ordre quand un pompier porte plainte.
Béatrice Duguay, inadmissible et intolérable, c'est Didier Deschamps, le coach de l'équipe de France, qui parle de Kurt Zouma, 11 sélections chez les Bleus et une vidéo qui provoque la consternation, on l'y voit maltraiter son chat. Hier, son sponsor Adidas l'a lâché, son équipe de West Ham en Angleterre lui a retiré 2 semaines de salaire, sanction estimée à 300 000 euros. Le foot sur le terrain, c'est Versailles en demi-finale de la Coupe de France, vainqueur de Bergerac au tir au but hier soir. Son prochain adversaire ce sera Nice, qui a sèchement battu Marseille 4-1. L'autre demi-finale opposera Monaco au gagnant du match de ce soir, Nantes-Bastia. Et les vendeurs de baskets, comme la grande distribution ou Samsung hier, tout le monde veut en être, tout le monde veut sa place et investit dans le métavers, cet univers totalement virtuel dans lequel on navigue sur Internet. Facebook met 50 milliards de dollars pour le développer. Rien de tangible à vendre ou à acheter, rien de palpable ressemble physiquement sur le métavers. Pourtant, voilà qui ressemble à un nouvel Eldorado. Julien Baldacchino nous explique pourquoi.
Un pied dans le jeu vidéo, l'autre dans la spéculation immobilière, c'est ce que l'on retrouve dans les plateformes The Sandbox et Decentraland, très populaires dans le métavers. La vidéo de présentation de Decentraland ne cache pas la vocation commerciale de sa démarche.
Et si vous pouviez être propriétaire du monde virtuel, Decentraland, une plateforme immersive basée sur la blockchain, acheter des terrains, changer la façon dont les gens voient le monde, acheter les tout premiers biens immobiliers virtuels.
Sur chacun de ces jeux, il y a donc des milliers de parcelles de terrains à vendre et celles-ci sont de plus en plus prisées par les marques, qu'il s'agisse de Carrefour, Ubisoft ou Adidas, qui a annoncé la semaine dernière avoir acheté une parcelle dans The Sandbox pour y vendre des accessoires virtuels. Une transaction pour un montant de près d'1,5 million d'euros, tout cela pour un jeu qui pour l'heure n'a connu qu'une seule session de test. Pour ces entreprises, acheter un terrain aujourd'hui revient un peu à ce qu'était acheter son nom de domaine, son adresse web, il y a 30 ans, au début d'Internet, c'est-à-dire se réserver un espace dès à présent pour l'Internet de demain, même si on ne sait pas encore à quoi il servira.
Julien Baldacchino, enfin c'était une pionnière du funk, elle s'appelait Betty Davis, elle est morte hier aux États-Unis à 77 ans, elle fut la seconde épouse de Miles Davis, sans jamais être une star, pourtant sa musique, elle était auteur, compositeur, interprète, a inspiré des générations d'artistes, de Prince à Madonna en passant par Ice Cube. Écoutez plutôt. She spit it, snuff and boogie, dram on dram. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. Betty Davis, que j'ai découverte cette nuit, je l'avoue, et dont je n'ai plus l'intention de me passer.
Merci beaucoup Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Et retour de la pluie au nord, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, répit de courte durée, hein, car une perturbation océanique très atténuée a gagné les côtes de la Manche, de la Bretagne, aux Hauts-de-France, avec des nuages, quelques pluies, le ciel sans nuages aussi, sur la moitié nord du bassin d'Arcachon, au centre, aux Ardennes et au sud de cette ligne, malgré quelques entrées maritimes près du golfe du Lion. Le soleil sera au rendez-vous ce matin jusqu'en Corse et c'est dans le Doubs qui fait le plus froid avec moins 5 à Montbéliard, contraste avec les 11 relevés à Saint-Jean-de-Luz. Vous vous réveillez avec moins 3 en Haute-Loire comme dans le Val-de-Saône. Il fait 4 à Lyon, 5 à Calvi comme à Quimper, 6 à Paris et 9 à Montpellier.
Et les pluies vont glisser au sud cet après-midi.
Oui, et la perturbation va continuer donc son petit bonhomme de chemin vers l'Île-de-France, à la Lorraine en fin d'après-midi et la nuit prochaine, ces pluies donneront même de la neige sur les reliefs de l'Est des 500 mètres alors que des éclaircies seront de retour tour des Côtes d'Armor au Cap Grinet et les grisailles sur le golfe du Lion vont se morceler sous un mercure qui va accuser une petite baisse, 7 seulement à Saint-Dizier, 8 à Cherbourg, 9 à Nancy comme au Havre ou à Nevers. Vous aurez 10 à Paris, 11 à Colmar et à La Rochelle, mais 15 à Marseille, 16 à Bordeaux comme à Ajaccio, on atteindra 19 à Pau, alors qu'hier on a relevé 23 degrés à Bustin-Siribéry dans les Pyrénées-Atlantiques.
Merci Marie-Pierre et merci à vous d'écouter Inter, il est 8h18, géopolitique.